35.2. Je voulus me livrer sans réserve à l'incurie de cet état d'épuisement. Je me retirai dans la solitude. Un vaste monastère abandonné et à demi renversé par les orages des révolutions s'offrit à moi comme une retraite imposante et profonde. Il était situé dans une de mes terres. Je m'emparai d'une cellule dans la partie la moins dévastée des bâtiments. C'était celle qu'avait jadis habité le prieur. On voyait encore sur le mur la marque des clous qui avaient soutenu son crucifix. Et ses genoux, habitués à la prière, avaient creusé leur empreinte sur le pavé au-dessous du symbole rédempteur. Je me plus à revêtir cette chambre des austères insignes de la foi catholique. Une couche en forme de cercueil, un sablier, un crâne humain et des images de saints et de martyrs élevant leurs mains ensanglantées vers le Seigneur. À ces objets lugubres qui me rappelaient que j'étais désormais morte aux passions humaines, j'aimais à mêler les attributs plus riants d'une vie de poète et de naturaliste, des livres, des instruments de musique et des vases remplis de fleurs. Le pays était sans beauté apparente. Je l'avais aimé d'abord pour sa tristesse uniforme, pour le silence de ses vastes plaines. J'avais espéré m'y détacher entièrement de toute émotion vive, de toute admiration exaltée. Avide de repos, je croyais pouvoir sans fatigue et sans danger promener mes regards sur ces horizons aplanis, sur ces océans de bruyère dont un rare accident, un chêne racorni, un marécage bleuâtre, un éboulement de sables incolores venaient à peine interrompre l'indigente immensité. J'avais espéré aussi que dans cet isolement absolu, dans ces mœurs farouches et pauvres que je me créais, dans cet éloignement de tous les bruits de la civilisation, je trouverais l'oubli du passé, l'insouciance de l'avenir. Il me restait peu de force pour regretter, moins encore pour désirer. Je voulais me considérer comme morte et m'ensevelir dans ces ruines afin de m'y glacer entièrement et de retourner au monde dans un état d'invulnérabilité complète. Je résolus de commencer par le stoïcisme du corps afin d'arriver plus sûrement à celui de l'esprit. J'avais vécu dans le luxe. Je voulus me rendre absolument insensible par l'habitude aux rigueurs matérielles d'une vie de cénobite. Je renvoyai tout serviteur inutile et ne voulus recevoir ma nourriture et les objets absolument nécessaires à mon existence que des mains d'une personne invisible qui se glissait chaque matin par les galeries abandonnées du cloître jusqu'à un guichet pratiqué à l'extérieur de mon habitation et se retirait sans avoir eu la moindre communication directe avec moi. Réduite à la plus frugale consommation, forcée de travailler moi-même à la salubrité de ma demeure et à la conservation de ma vie, entourée d'objets extérieurs d'une grande sévérité, je voulus encore m'imposer une plus rude épreuve. Je m'étais habitué dans la société au mouvement, à l'activité facile et incessante que procure la richesse. J'aimais les exercices rapides, la course fougueuse des chevaux, les voyages, le grand air, la chasse bruyante. J'inventai de me mortifier et d'éteindre l'ardeur de mes pensées en me soumettant à une claustration volontaire. Je relevai en imagination les enceintes écroulées de l'abbaye. J'entourai le préau ouvert à tous les vents d'une barrière invisible et sacrée. Je posai des limites à mes pas et je mesurai l'espace où je voulais m'enfermer pour une année entière. Les jours où je me sentais agité au point de ne pouvoir plus reconnaître la ligne de démarcation imaginaire tracée autour de ma prison, je l'établissais par des signes visibles. J'arrachais aux murailles décrépites les longs rameaux de lierre et de clématite dont elles étaient rongées. Et je les couchais sur le sol, aux endroits que je m'étais interdit de franchir. Alors, rassuré sur la crainte de manquer à mon serment, je me sentais enfermé dans mon enceinte avec autant de rigueur que je l'aurais été dans une Bastille. Il y eut un temps de résignation et de ponctualité qui me reposa des souffrances passées. Il se fit en moi un grand calme, et mon esprit s'endormait paisible sous l'empire d'une résolution bien arrêtée. Mais il arriva que mes facultés, renouvelées par le repos, se réveillèrent peu à peu et demandèrent impétueusement à s'exercer. En voulant l'abattre, j'avais renouvelé ma puissance. En couvrant de cendres une mourante étincelle, je lui avais conservé ses principes de vie. J'avais couvé un feu assez intense pour produire un vaste incendie. En me sentant renaître, je ne m'effrayais pas assez. Je ne me réprimais point par le souvenir des arrêts que j'avais prononcés sur ma tombe. Il eût fallu consacrer cet âpre travail à détruire l'importance de toute chose à mes yeux, à rendre nul tout effet extérieur sur mes sens. Au lieu de cela, la solitude et la rêverie me créèrent des sens nouveaux et des facultés que je ne me connaissais pas. Je ne cherchais pas à les étouffer dans leurs principes parce que je crus qu'elles donneraient le change à celles qui m'avaient égaré. Je les acceptais comme un bienfait du ciel, quand j'aurais dû les repousser comme une nouvelle suggestion de l'enfer. La poésie revint habiter mon cerveau, mais, trompeuse, elle prit d'autres couleurs, s'insinua sous d'autres formes et s'avisa d'embellir des choses que j'avais crues jusque-là sans éclat et sans valeur. Je n'avais pas pensé qu'une indifférence inactive pour certaines faces de la vie devait m'inspirer de l'empressement et de l'intérêt pour des choses naguère inaperçues. C'est pourtant ce qui m'arriva. La régularité que j'avais embrassée comme en revêt un cilice me devint bonne et douce comme un lit moelleux. Je pris un orgueilleux plaisir à contempler cette obéissance passive d'une partie de moi-même et cette puissance prolongée de l'autre, cette sainte abnégation de la matière et ce règne magnifique de la volonté calme et persistante. J'avais méprisé jadis la règle dans les études. En me l'imposant dans ma retraite, je m'étais flatté que mes pensées perdraient de leur vigueur. Elles doublèrent de force en s'organisant mieux dans mon cerveau. En s'isolant les unes des autres, elles prirent des formes plus complètes. Après avoir erré longtemps dans un monde de vagues perceptions, elles se développèrent en remontant à la source de chaque chose et prirent une singulière énergie dans l'habitude et le besoin des recherches. Ce fut là mon plus grand malheur. J'arrivai au scepticisme par la poésie, au doute par l'enthousiasme. Ainsi, l'étude systématique de la nature me conduisit également à louer Dieu et à le blasphémer. Auparavant, je ne cherchais dans ses œuvres que le sentiment de l'admiration. Ma complaisante poésie repoussait les hideux excès de la création ou s'efforçait à les revêtir d'une grandeur sombre et sauvage. Quand je commençai à examiner plus attentivement la nature, à la retourner sous ses faces diverses avec un regard froid et une impartiale pensée d'analyse, je trouvais plus ingénieux, plus savant, plus immense le génie qui avait présidé à la création. Je m'agenouillai pénétré d'une foi plus vive et, bénissant l'auteur de cet univers nouveau pour moi, je le priai de se révéler encore. je continuais d'apprendre et d'analyser. Mais la science est un abîme qu'on devrait creuser avec prudence. Lorsqu'après avoir examiné avec enivrement la magnificence des couleurs et des formes qui concourent à la formation de l'univers, j'ai constaté ce que chaque classe d'êtres a d'incomplet, d'impuissant et de misérable. Quand j'eus reconnu que la beauté était compensée chez les uns par la faiblesse, que chez les autres la stupidité détruisait les avantages de la force, que nul n'était organisé pour la sécurité ou pour la jouissance complète, que tous avaient une mission de malheur à accomplir sur la terre, et qu'une nécessité fatale présidait à cet effroyable concours de souffrance, l'effroi me saisit. J'éprouvai un instant le besoin de nier Dieu afin de n'être pas forcé de le haïr. Puis je me rattachai à lui par l'examen de ma propre force. Je retrouvai un principe divin dans cette richesse d'énergie physique qui, chez les animaux, supporte les inclémences de la nature, dans cette puissance d'orgueil ou de dévouement qui, chez l'homme, brave ou accepte les impitoyables arrêts de la divinité. Partagé entre la foi et l'athéisme, je perdis le repos. Je passai plusieurs fois dans un jour d'une disposition tendre à une disposition haineuse. Quand on est parvenu à se placer sur les limites de la négation et de l'affirmation, quand on se croit arrivé à la sagesse, on est bien prêt d'être fou, car on n'a plus pour moyen d'avancement que la perfection qui est impossible ou la raison instinctive qui, n'étant pas soumise à la réflexion, peut nous porter au délire. Je tombai donc dans de violentes agitations et, comme toute souffrance humaine aime à se contempler et à se plaindre, la dangereuse poésie revint se placer entre moi et les objets de mon examen. L'effet du sens poétique étant principalement l'exagération, tous les maux s'agrandirent autour de moi, et tous les biens se révélèrent par des émotions si vives qu'elles ressemblaient à la douleur. La douleur elle-même, m'apparaissant sous un aspect plus vaste et plus terrible, creusa en moi de profonds abîmes où s'engloutirent mes vains rêves de sagesse, mes vaines espérances de repos. Parfois, j'allais regarder le coucher du soleil du haut d'une terrasse à demi écroulée, dont une partie s'élevait encore entourée et comme portée par ces sculptures monstrueuses dont le catholicisme revêtait jadis les lieux consacrés au culte. Au-dessous de moi, ces bizarres allégories allongeaient leurs têtes noircies par le temps et semblaient, comme moi, se pencher vers la plaine pour regarder silencieusement couler les flots, les siècles et les générations. Ces guivres couvertes d'écailles, ces lézards au tronc hideux, ces chimères pleines d'angoisse, tous ces emblèmes du péché, de l'illusion et de la souffrance, vivaient avec moi, d'une vie fatale, inerte, indestructible. Lorsqu'un des rayons rouges du couchant venait se jouer sur leurs formes revêches et capricieuses, je croyais voir leurs flancs se gonfler, leurs nageoires épineuses se dilater, leur face horrible se contracter dans de nouvelles tortures. Et en contemplant leur corps engagé dans ces immenses masses de pierre que ni la main des hommes ni celle du temps n'avaient pu ébranler, je m'identifiais avec ces images d'une lutte éternelle entre la douleur et la nécessité, entre la rage et l'impuissance. Bien loin, au-dessous des masses grises et anguleuses du monastère, la plaine unie et morne déployait ses perspectives infinies. Le soleil, en s'abaissant, y projetait l'embrasement de ses vastes lueurs. Quand il avait disparu lentement derrière les insaisissables limites de l'horizon, des brumes bleuâtres, légèrement pourprées, montaient dans le ciel et la plaine noire ressemblait à un immense linceul étendu sous mes pieds. Le vent courbait les molles bruyères et les faisait onduler comme un lac. Souvent, il n'y avait d'autre bruit dans cette profondeur sans bornes que celui d'un ruisseau frémissant parmi les grès, le croassement des oiseaux de proie et les voix des brises enfermées et plaintives sous les cintres du cloître. Rarement une vache égarée venait, inquiète et mugissante, errer autour de ces ruines et promener un sauvage regard sur les terres incultes et sans asile où elles s'étaient imprudemment risquées. Une fois, un jeune enfant vint, guidé par le son de la clochette, chercher une de ces chèvres jusque dans l'intérieur du préau. Je me cachai pour qu'il ne me vît point. La nuit descendait de plus en plus sombre sous les galeries humides et sonores. Le jeune pâtre s'arrêta d'abord, comme frappé de terreur au bruit de ses pas qui retentissaient sous les voûtes. Puis, revenu de sa première surprise, il pénétra en chantant jusqu'au lieu où sa chèvre savourait les végétations salpêtrées qui croissent dans les décombres. Le mouvement d'une autre personne que moi dans ce sanctuaire me fut odieux. Le bruit du sable qui criait sous ses pieds, l'écho qui répondait à sa voix, me semblait autant d'insultes et de profanations pour ce temple dont j'avais relevé mystérieusement le culte, où seul, au pied de Dieu, j'avais rétabli le commerce de l'âme avec le ciel. Au printemps, quand les genêts sauvages se couvrirent de fleurs, quand les mauves exhalèrent leur douce odeur autour des étangs et que les hirondelles remplirent de mouvements et de bruits les espaces de l'air et les hauteurs les plus inaccessibles des tours, la campagne prit des aspects d'une majesté infinie et des parfums d'une volupté enivrante. La voix lointaine des troupeaux et des chiens vint plus souvent réveiller les échos des ruines et l'alouette eut au matin des chants suaves et tendres comme des cantiques. Les murs du monastère se revêtirent eux-mêmes d'une fraîche parure. La vipérine et la pariétaire poussèrent des touffes d'un vert somptueux dans les crevasses humides. Les violiers jaunes embaumèrent les nefs et dans le jardin abandonné, quelques arbres fruitiers centenaires qui avaient survécu à la dévastation, parèrent de bourgeons blancs et roses, leurs branches anguleuses rongées par la mousse. Il n'y eut pas jusqu'au fût des piliers massifs qui ne se couvrit de ces tapis aux nuances riches et variées dont les plantes microscopiques, engendrées par l'humidité, colorent les ruines et les constructions souterraines. J'avais étudié le mystère de toutes ces reproductions animales et végétales et je pensais avoir glacé mon imagination par l'analyse. Mais, en reparaissant plus belle et plus jeune, la nature me fit sentir sa puissance. Elle se moqua de mes orgueilleux travaux et subjugua ses facultés rétives qui se vantaient d'appartenir exclusivement à la science. C'est une erreur de croire que la science étouffe l'admiration et que l'œil du poète s'éteint à mesure que l'œil du naturaliste embrasse un plus vaste horizon. L'examen, qui détruit tant de croyances, fait jaillir aussi des croyances nouvelles avec la lumière. L'étude m'avait révélé des trésors en même temps qu'elle m'avait enlevé des illusions. Mon cœur, loin d'être appauvri, était donc renouvelé. Les splendeurs et les parfums du printemps, les influences excitantes d'un soleil tiède et d'un air pur, l'inexplicable sympathie qui s'empare de l'homme au temps où la terre en travail semble exhaler la vie et l'amour par tous les pores, me jetèrent dans des angoisses nouvelles. Je ressentis tous les aiguillons de l'inquiétude. Il me sembla que je reprenais à la vie, que je pourrais encore aimer. Une seconde jeunesse, plus enthousiaste que la première, faisait palpiter mon sein avec une violence inconnue. J'étais à la fois effrayée et joyeuse de ce qui se passait en moi, et je m'abandonnais à ce trouble extatique sans savoir quel en serait le réveil. Bientôt, la frayeur revenait avec la réflexion. Je me rappelais les infortunes déplorables de mon expérience. Les désastres du passé me rendaient incapable de prendre confiance en l'avenir. J'avais tout à craindre, les hommes, les choses, et moi surtout. Les hommes ne me comprendraient pas, et les choses me blesseraient sans cesse, parce que jamais je ne pourrais m'élever ou m'abaisser au niveau des hommes et des choses. Et puis, l'ennui du présent me saisissait, m'étreignait de tout son poids. Ma retraite, si austère, si poétique et si belle, me semblait effrayante en de certains jours. Le vœu qui m'y retenait volontairement se présentait à moi comme une horrible nécessité. Je souffrais, dans ce monastère sans enceinte et sans porte, les mêmes tortures qu'un religieux captif derrière les fossés et les grilles. Dans cette alternative de désir et de crainte, dans cette lutte violente de ma volonté contre elle-même, je consumais ma force à mesure qu'elle se renouvelait. Je subissais les fatigues et les découragements de l'expérience sans rien essayer. Quand le besoin d'agir et de vivre devenait trop intense, je le laissais me dévorer jusqu'à ce qu'il s'épuisât de lui-même. Des nuits entières s'écoulaient dans le travail de la résignation. Couché sur la pierre des tombeaux, je m'abandonnais à des larmes sans cause et sans objet apparent, mais qui prenaient leur source dans le profond ennui d'un cœur sans aliment. Souvent, une pluie d'orage venait me surprendre dans l'enceinte découverte de la chapelle. Je me faisais un devoir de la supporter et j'espérais en retirer du soulagement. Parfois, quand le jour paraissait, il me trouvait brisé de fatigue, plus pâle que l'aube, les vêtements souillés et n'ayant pas la force de relever mes cheveux épars où l'eau ruisselait. Souvent encore, j'essayais de me soulager en poussant des cris de douleur et de colère. Les oiseaux de nuit s'envolaient effrayés ou me répondaient par des gémissements sauvages. Le bruit répété de voûte en voûte ébranlait ces ruines chancelantes et des graviers croulant du haut des combles semblaient annoncer la chute de l'édifice sur ma tête. Oh, j'aurais voulu alors qu'il en fût ainsi. Je redoublais mes cris, et ces murs qui me renvoyaient le son de ma voix plus terrible et plus déchirant semblaient habités par des légions de damnés empressés de me répondre et de s'unir à moi pour le blasphème. Il y avait, à la suite de ces nuits terribles, des jours d'une morne stupeur. Quand j'avais réussi à fixer le sommeil pour quelques heures, un engourdissement profond suivait mon réveil et me rendait incapable de, pour tout un jour, de volonté ou d'intérêt quelconque. À ces moments-là, ma vie ressemblait à celle des religieux abrutis par l'habitude et la soumission. Je marchais lentement et durant un temps limité. Je chantais des psaumes dont l'harmonie endormait ma souffrance, sans qu'aucun sens arrivât de mes lèvres à mon âme. Je me plaisais à cultiver des fleurs sur les escarpements de ces âpres constructions où elles trouvaient du sable et du ciment pulvérisé pour enfoncer leurs racines. J'allais contempler les travaux de l'hirondelle et défendre son nid des envahissements du moineau et de la mésange. Alors, tout retentissement des passions humaines s'effaçait dans ma mémoire. Je suivais machinalement et par coutume la ligne de captivité volontaire tracée par moi sur le sable et ne songeais pas plus à la franchir que si l'univers n'eût pas existé de l'autre côté. J'avais aussi des jours de calme et de raison bien sentis. La religion du Christ, que j'ai conformé à mon intelligence et à mes besoins répandait une suavité douce, un attendrissement vrai sur les blessures de mon âme. À la vérité, je ne me suis jamais beaucoup inquiété de constater à mes propres yeux si le degré de divinité départi à l'âme humaine autorisait ou non les hommes à s'appeler prophètes, demi-dieux, rédempteurs, Bacchus, Moïse, Confucé, Mahomet, Luther ont accompli de grandes missions sur la terre et imprimé de violentes secousses à la marche de l'esprit humain dans le cours des siècles. Étaient-ils semblables à nous, ces hommes par qui nous pensons, par qui nous vivons aujourd'hui ? Ces colosses dont la puissance morale a organisé les sociétés n'était-il pas d'une nature plus excellente, plus pure, plus céleste que la nôtre? Si l'on ne nie point Dieu et l'essence divine de l'homme intellectuel, a-t-on le droit de nier ses plus belles œuvres et de les méconnaître? Celui qui, né parmi les hommes, vécut sans faiblesse et sans péché, celui qui dicta l'Évangile, et transforma la morale humaine pour une longue suite de siècles, ne peut-on pas dire que celui-là est vraiment le Fils de Dieu ? Dieu nous envoie alternativement des hommes puissants pour le mal et des hommes puissants pour le bien. La suprême volonté qui régit l'univers, quand il lui plaît, de faire faire à l'esprit humain un pas immense en avant ou en arrière sur une partie du globe, peut, sans attendre la marche austère des siècles et le travail tardif des causes naturelles, opérer ces brusques transitions par le bras ou la parole d'un homme créé tout exprès. Ainsi, que Jésus vienne mettre son pied nu et poudreux sur le diadème d'or des pharisiens, qu'il brise la loi ancienne et annonce au siècle futur cette grande loi du spiritualisme nécessaire pour régénérer une race énervée, qu'il se dresse comme un géant dans l'histoire des hommes et la sépare en deux, le règne des sens et le règne des idées, qu'il anéantisse de son inflexible main toute puissance animale de l'homme, et qu'il ouvre à son esprit une nouvelle carrière, immense, incompréhensible, éternelle peut-être. Si vous croyez en Dieu, ne vous mettrez-vous pas à genoux et ne direz-vous pas « Celui-là est le Verbe qui était avec Dieu au commencement des siècles. » Il est sorti de Dieu, il retourne à lui. Il est à jamais avec lui, assis à sa droite, parce qu'il a racheté les hommes. Dieu qui du ciel a envoyé Jésus, Jésus qui était Dieu sur la terre, et l'Esprit de Dieu qui était en Jésus et qui remplissait l'espace entre Jésus et Dieu, n'est-ce pas là une trinité simple, indivisible, nécessaire à l'existence du Christ et à son règne? Tout homme qui croit et qui prie, tout homme que la foi met en communion avec Dieu, n'offre-t-il pas en lui un reflet de cette trinité mystérieuse, plus ou moins affaiblie selon la puissance des révélations de l'esprit céleste à l'esprit humain? L'âme, l'élan de l'âme vers un but incréé, et le but mystérieux de cet élan sublime, tout cela n'est-il pas Dieu révélé en trois enseignements distincts? La force, la lutte et la conquête? Ce triple symbole de la divinité, ébauché dans l'humanité entière, a pu se produire une fois, splendide et complet, entre Jésus, le Père du monde, et l'Esprit Saint, figuré par la foi catholique sous la forme d'une colombe, pour signifier que l'amour est l'âme de l'univers. Ces mystiques allégories me font sourire, répondit Pulchéri. Voilà comme vous êtes, âmes d'élite, pures essences. Il vous faut voir et commenter le grand livre de la révélation. Il faut que vous soumettiez la parole sacrée aux interprétations de votre orgueilleuse philosophie. Et quand, à force de subtilité, vous êtes parvenu à donner un sens de votre choix au mystère divin, vous consentez alors à vous incliner devant la foi nouvelle expliquée par vous et refaite à votre usage. C'est devant votre propre ouvrage que vous daignez vous prosterner. Convenez-en, les liens.